Quelque part, dans les sous-sols d'Orléans.
Mes amis, si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est que les choses doivent mieux s'organiser pour nous dans cette ville.
Ouais !
C'est pas faux.
Cela fait trop longtemps que la musique est mal considérée.
Ouais !
Il est temps de montrer aux limonadiers de quoi nous sommes capables.
Ouais !
Je vous propose un nom qui nous unira et que nous brandirons aux quatre coins de l'agglomération. Mesdames, messieurs, mes amis disques jockeys, que le Saint-Disque soit.
And now, here's your punishment.
Bon, maintenant, qui s'occupe de la bâche?
Faut arriver à quelle heure pour les balances?
Il nous file à manger?
150 balles?
Vous êtes sûr que vous pouvez pas me filer du liquide pour la presta de vendredi dernier?
Ma voiture a lâché et j'ai plus mon permis. Quelqu'un peut m'emmener avec ma sono?
Ok, t'as les platines, mais qui est-ce qui ramène les enceintes?
Qui a des XLR de 30 mètres à me prêter?
Super, je vais pouvoir passer de la techno!
Et les gars, on mixe encore dans un brunch.
Quelqu'un a des trucs pour éviter le rumble sur les vinyles?
Et c'est le fun me?
Et c'est payé pour la fête de la musique? Parce que moi j'ai acheté du sirop banane, du sirop orange, du sirop citron, du sirop menthe, et j'attends encore qu'on me rembourse la facture, s'il te plaît.
Ah putain!
You so regret what you have done! Now you do!
Et vous êtes sur Radio Corbus, il est 18h02, c'est l'émission du Saint-Disque qui démarre et c'est The KLN qui vous parle en ce lundi. Voilà, on est lundi comme je viens de le dire, voilà, je viens de me répéter, super. Et en face de moi j'ai Michaud et Orange Pression pour une émission qui va être tournée sur la musique électronique, mais avec un axe un peu différent de d'habitude. Alors on va commencer d'abord, par les news, par les actus. Michaud, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Bah super, au top. Alors tu viens pour nous parler d'un petit truc qui s'appelle, un petit truc en façon de parler, qui s'appelle Astra. Est-ce que tu m'entends bien dans le casque?
Oui, je t'entends bien.
Ok.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est qu'Astra?
Astra...
Ça nous vient des étoiles.
Ah, ça nous vient des étoiles, ça vient de nulle part. Ça atterrit à Orléans, tu vois, et c'est magnifique.
Ok.
Donc Astra, ça part... Ça part d'une rencontre avec du coup Sébastien Rastol, le patron du Nova, au dernier DJ Cast, et d'une passion commune pour la musique électronique. Il m'a proposé du coup de gérer la petite salle du Nova et lui donner un nom, un univers autour de la musique électronique que j'ai forcément accepté. Et du coup, on a ouvert le 27 septembre 2025. On a commencé autour de la musique house plus, parce qu'il fallait commencer par quelque part. Jusqu'en décembre, on a jaugé autour de la house, la techno, la hard techno. On a fait venir pas mal de groupes, Arca, Clair Obscur, donc tu connais très bien.
Ouais, je vois.
Et il s'avère que du coup, une décision a été prise et a dû être prise pour tourner le club en 2026 plus sur un axe techno et art techno, parce que il y avait énormément de demandes
par rapport à ça. Ouais.
Énormément de demandes, ouais.
Alors c'est quand même pas facile, parce que quand on regarde les origines de la musique électronique, c'est forcément lié au club. Sauf que nous à Orléans, en fin de compte, la musique électronique n'a jamais été liée au club. Comment t'as fait pour cerner un petit peu les gens qui aiment la musique électronique et pour leur dire venez, en fait c'est notre univers aussi?
C'est d'abord un challenge en vérité. Je t'avoue que quand on l'ouvre avec Sébastien, c'est vraiment un challenge, c'est à dire que ça fait plus de 10 ans maintenant, même voire un petit peu plus, que la musique à Orléans est très axée commerciale. Et 10 ans de commercial à Orléans, ça synonyme, c'est synonyme de rap, chata, bouillon, afrobeat.
Musique un peu généraliste.
Exactement.
Aussi.
Voilà, la musique électronique, elle a été laissée de côté, alors qu'elle est très bien représentée par la ville, par le set électro, etc. Toutes les choses qu'on connaît autour de la musique électronique et toutes les soirées privées comme La Cachette, Arca, Clair Obscur.
On peut aller aussi, on pense au Cocorico Electro.
Cocorico Electro.
Des années qui sont là et qui proposent.
Donc tu vois, la musique électronique est représentée quand même énormément à Orléans et il s'avère que les personnes qui aiment cette musique-là sont obligés d'attendre en fait entre guillemets leur événement, si on peut dire ça, où ils attendent que le collectif organise une soirée pour pouvoir se retrouver. Donc c'est un challenge à trois têtes, je l'appelle, parce que tu as le premier challenge, c'est-à-dire imposer un style de musique en club électronique qui n'a jamais été fait à Orléans, on va dire. Orléans a toujours suivi des vibes de la musique, que ça soit.
Il y a eu des tentatives comme le Nova lui-même qui a tenté au
exactement,
début.
Exactement au tout début, mais il est arrivé dans une vibe rap. Ouais. Donc après voilà. Après t'as le deuxième challenge, c'est-à-dire faire connaître la musique électronique à Orléans de tout son panel, c'est-à-dire aller chercher des clients qui écoutent principalement de la musique commerciale. Et t'as le troisième challenge, et celui-ci, je trouve le plus compliqué, c'est-à-dire d'aller chercher des gens qui ne sortent plus en boîte de nuit.
Ouais. C'est une tranche. Qui sont habitués à vivre sans.
Et à vivre sans, ouais. Voilà ça. Et pour moi, c'est ce défi-là le mieux et le plus important, parce que c'est cette clientèle-là qu'il faut aller chercher. Au-delà de faire connaître la musique électronique, et moi je le vois tous les week-ends à Astra, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils viennent, ils ne connaissent pas, et ils adorent. Mais vu que c'est comme tout, on ne propose pas aux gens de base, donc ils ne peuvent pas connaître. C'est pas TikTok ou Instagram, ils vont voir des gens sur un. C'est pas ça qui va leur faire aimer, en fait. Le fait d'aimer, c'est de vivre la chose. Donc là, le fait de le vivre et qu'ils viennent à Astra et l'univers que j'ai créé, forcément, ça les amène à aimer la musique électronique. Et le troisième truc, c'est de faire aimer, enfin de faire revenir les gens en boîte de nuit qui ne sortaient plus parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans les musiques commerciales, quoi.
Donc depuis fin septembre, depuis la première soirée, ça t'a permis aussi de voir pas mal de choses dont on parle par exemple. Est-ce que toi tu as déjà commencé à repérer des gens qui viennent habituellement? Est-ce qu'il y a déjà une communauté Astra qui est en train de se créer?
Ouais bien sûr, il y a des habitués, il y a des gens qui reviennent assez souvent, il y a des gens qui viennent de très loin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de Châteaudun, il y a des gens qui viennent de vraiment très très loin. Et il nous remercie d'avoir eu cette idée assez folle et d'avoir ouvert Astra pour justement qu'ils n'attendent pas le prochain festival ou même ne serait-ce que monter sur Paris. Il y a beaucoup de communautés, enfin house et techno réunies, qui montent sur Paris pour vivre ce genre d'event. Et là, en fait, ils viennent à Orléans et ils vivent ce genre d'event. Ils n'ont pas besoin de payer 80 ou 100 euros à la soirée. Ils ont une entrée standard et ils viennent pour vivre ça. Donc oui, il y a des gens qui viennent régulièrement. Il y a une communauté qui commence à gonfler de plus en plus. Et c'est ça le plus important, quoi.
Et en tant que DJ, est-ce que c'est pas facile, comment tu vis le fait de programmer des événements sans toi te mettre en valeur? C'est une question un peu...
Waouh. elle est incroyable. Mais en fait, si tu veux, moi, j'ai jamais aimé être mis en avant. C'est-à-dire que, en gros, tu vois, même quand j'organisais La Cachette, j'ai jamais forcément dit c'est moi ou quoi ou qu'est-ce. Et en tant que DJ, c'est pareil. C'est-à-dire que là, moi, je suis là pour... j'ai le concept, mais le concept, c'est pas moi. C'est Astra. Donc, c'est-à-dire que je fais venir des gens, des DJ qui ont, entre guillemets, la même vision que moi. Et c'est ça le plus important, c'est-à-dire que je préfère eux les mettre en valeur parce que je sais qu'en étant mis en valeur, je vais faire rayonner Orléans et tous les DJ orléanais à travers Astra plutôt que moi me faire rayonner moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Et le plus important, c'est qu'Astra rayonne.
Non, mais la question se pose parce que c'est vrai que le point faible, on va dire, des DJ, et c'est pas un jugement, c'est comme ça, c'est qu'ils veulent avant tout se faire mixer.
Ouais, bien
donc
sûr.
On peut penser que si on file la direction artistique à un DJ, le DJ va penser avant tout à se faire mixer. Et je pense que c'est bien de dire que c'est pas forcément le cas dans la réalité, quoi.
Ah ouais, non, je pense pas. Bah même, tu vois, quand on peut prendre l'exemple de David Guetta, quand il était directeur artistique à l'ancienne, il mixait pas tout le temps.
Ouais.
Donc il mixait forcément, parce que voilà, mais il mixait pas tout le temps. Il faisait tourner ses potes. Et ouais, là, c'est le cas.
Il construisait vraiment un univers, exactement, une soirée. Ouais, c'est ça. Mm. Alors maintenant, on va parler l'avenir. Qu'est-ce que tu as prévu de beau pour les prochains mois? Vu qu'on sait que maintenant, ça sera plus axé sur la techno. J'imagine que tu as prévu certaines choses croustillantes.
Oui, bien sûr. Bah, déjà, il va y avoir beaucoup plus de soirées techno, art techno, mais surtout des artistes. C'est-à-dire que, en gros, j'ai vraiment vu que maintenant, je sais où je vais. Et avec Sébastien, on sait où on va. C'est-à-dire, on a, entre guillemets, ciblé le potentiel de clients et les demandes aussi qui revenaient. Du coup, on a vraiment, et je remercie Radamant pour ça, parce que je sais que c'est aussi grâce à lui, ciblé des artistes techno, art techno. Et on y va jusqu'en 2026 avec énormément de week-ends, enfin de samedis chargés. J'espère que vous avez les reins solides, parce que ça va être speed. Ça va vraiment être speed.
Donc il faut dire aux gens de préparer leur samedi, car maintenant il y a une offre hebdomadaire.
Exactement.
Qui concerne la musique électronique et qui est en boîte de nuit.
Exactement.
Et ça c'est un truc de fou, il faut pas passer à côté de ça.
Non, on peut pas.
Ouais.
On peut pas, parce que Orléans, ça fait des années qu'on le demande, ça fait des années que les gens ils attendent ça. C'est-à-dire, c'est vraiment la boîte de nuit unique à Orléans, c'est pas juste une boîte de nuit parmi tant d'autres, non. C'est la boîte de nuit que les gens attendaient depuis des années. Et il faut faire vivre la chose et que les gens ne y prêtent un intérêt, quoi.
Alors à côté de toi, il y a Orange Pression. On peut aussi lui demander un petit peu son avis. Salut Orange Pression, comment
Salut.
Ça va?
Salut, ça va très bien, merci.
Toi aussi, on sait évidemment que tu es fan de musique électronique dans un autre registre. Mais qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle offre Astra qui arrive sur Orléans et qui remet la musique électronique au cœur du game, en fin de compte, dans les boîtes de nuit?
Je suis très convaincu par ce genre d'initiative. Je pense qu'en fait, toute initiative dans n'importe quel style de musique ou d'art visuel ou n'importe lequel est la bienvenue à Orléans ou dans les villes. Nous, on a quand même un peu la particularité dans le Loiret d'être sur un territoire qui est peut-être un peu moins évident que les autres en termes de lieux. Moi, si je le prends de mon côté musicien, c'est réussir à se produire ailleurs que directement dans des salles de concert, c'est devenu quasiment impossible. Donc là, pouvoir en fait effectivement ouvrir une salle dans un club déjà existant et qui est quand même reconnu, je crois les Orléanais connaissent quasiment tous le Nova, en plus il y a une forme d'accessibilité où si on se motive un peu on peut y aller à pied, enfin voilà, c'est quand même une institution quasiment à mon sens. Et le fait de pouvoir arriver à et alors moi je connais pas effectivement la personne qui a le Nova et tout, mais je trouve ça super de pouvoir faire confiance et de dire écoutez, s'il y a une fenêtre, moi je vous donne les clés entre guillemets, on va pouvoir avoir tenter des choses et puis y aller. Donc effectivement c'est super précieux en fait de pouvoir à la fois avoir ce type d'initiative sur notre territoire, Orléans dans notre ville, et puis aussi c'est comment on arrive à le pérenniser à mon avis, et c'est ça le truc qui va être un peu le challenge, c'est comment on arrive à fidéliser, à pérenniser, à se renouveler dans la continuité. Enfin, je vois très bien ce qui peut, les questions qu'il va falloir se poser derrière, et je trouve ça très très chouette. Voilà, donc bravo à eux.
Merci beaucoup.
Alors, c'est une question que je pose aussi un peu à vous deux, parce que vous êtes tous les deux liés à la musique électronique. Est-ce qu'on n'est pas dans une période favorable à ce style de musique et que les choses ne sont pas un petit peu en train de se bouleverser, en fin de compte?
Bah, on dit toujours que, tu vois, la musique, quoi qu'il arrive, quand on pense son univers en globalité, elle est cyclique. Donc, on a, la France a eu sa période électro, le monde a eu sa période électro en 2010 jusqu'en 2014, où c'était le grand boom après les années 90.
Le boom de l'EDM, par exemple.
Le boom de la Big Room, la Big Room, c'était assez fou. Et après, il y a eu, on sait, le rap pendant quasiment 10 ans. Il n'y avait pas de place pour d'autres styles musicaux. Et les plateformes de streaming y ont beaucoup participé. C'est-à-dire que les rappeurs savent comment faire des vues. Ils savent très bien, par exemple, placer un refrain dans les 25-30 premières secondes sur Spotify pour, entre guillemets, accrocher l'auditeur. Donc, en fait, si tu veux, la musique a été construite, le rap a été déconstruit de sa nature même et elle a été reconstruite pour les plateformes. Donc, ce qui fait que les plateformes, les gens, souvent, ils écoutent ce que tout le monde écoute. Donc, ce qui fait que, on est rentré dans ce cycle de rap pendant 10 ans.
Et tu rajoutes les algorithmes en plus.
Et tu rajoutes les algorithmes, mais en avant, justement, c'est ce que je te dis dans les 30 premières secondes. Donc, ce qui fait qu'un vu égale les
15-20 premières secondes, un vu. Donc, ce qui fait que bah, forcément, ça met en avant des musiques où le refrain il est au tout début. Et là, on s'aperçoit depuis un an ou deux qu'il y a quand même une mouvance qui s'effectue, c'est-à-dire que le rap perd en dynamisme, c'est-à-dire que la nouvelle génération qui arrive sur le marché, elle est moins clivante et moins impactante que l'ancienne. Et en plus, je pense aussi peut-être une sorte de lassitude, mais tu vois sur le top 200 Billboard, il n'y a pas une seule musique de rap. Et pourtant, c'est vraiment la référence au monde. C'est la première année depuis quasiment 20 ans qu'il n'y a pas de rap sur le top 200 Billboard. Et il faut savoir qu'on a aussi toujours un an ou deux de retard sur les États-Unis. Donc c'était cette année qu'il n'y avait pas de rap sur le top 200. Donc on sent qu'il y a une mouvance qui s'effectue. Après, qu'est-ce qui va prendre la place, enfin, on ne sait pas trop, mais on sent quand même qu'il y a une grosse poussée de la musique électronique depuis peu qui revient au centre de la sphère musicale, quoi.
À peu près le même avis. Alors peut-être que c'est un aspect générationnel. Peut-être qu'on n'est pas si éloigné en termes aussi de génération, de comment on a grandi. Moi, j'ai toujours connu la musique électronique quand j'étais ado parce que c'était plutôt des soirées. Alors, en tout cas, dans la ville dans laquelle je suis né et j'ai grandi, il y avait toujours de la drum and bass, du dub, des soirées comme ça. Et moi, je suis passé un peu au travers du hip-hop. Et c'est surtout que j'ai une formation de musique classique et de jazz. Donc, de toute façon, je suis un peu passé à côté sur ce style de musique qui était clairement prégnant. Par contre, il ne faut pas le minimiser, loin de là. Alors, par contre, je rejoins ces. C'est vrai que c'est comme si on avait une fenêtre qui s'ouvrait en plus. Donc à la fois, j'ai toujours connu des événements de musique électronique. Est-ce qu'on les a toujours connus pleins? J'en suis pas certain. Et maintenant, effectivement, alors surtout sur la techno et l'art techno, parce qu'il y a quand même eu une espèce de hype. Bon, on est en plein dedans, je crois, en fait.
Gros boom sur ces
styles-là. Voilà, relayé par les réseaux sociaux. Alors après, voilà, est-ce qu'on rentre dans le débat gatekeeper ou pas? Mais en tout cas, je pense qu'il faut exploiter cette fenêtre pour démocratiser un peu plus les musiques électroniques, peut-être aussi démystifier certains aspects des musiques électroniques. Donc profitons-en, faut y aller à fond, quoi.
Eh bien, très bien. Michaud, d'autres choses à dire sur Astra?
Non, pas grand-chose, juste venez tous les samedis soirs.
Le line-up samedi, c'est qui?
Line-up samedi, c'est Radamante.
Ok. On connaît bien. Bisous Radamante.
Bisous Radamante. Théo, qu'on connaît super
bien. On connaît très bien aussi.
Mon light, mon chouchou.
Ouais.
Et moi-même.
Eh bien, très bien. Donc, un bon line-up. Simple, efficace.
Ouais, techno, art techno.
Très bien. Donc, il faut venir samedi à Astra pour une bonne soirée techno, art techno. Voilà. Et puis là, on enchaîne sur toi, Orange Pression.
Ok.
On va te présenter un petit peu parce que tu vas nous faire un petit live après. T'as installé les machines juste avant de venir. Donc, il y a quand même un temps de préparation. Alors. Comment tu pourrais présenter un petit peu ce que tu fais? Parce que tu n'es pas DJ, mais quand même, tu es dans l'univers de la musique électronique. Et l'univers de la musique électronique, ce n'est pas que des DJ.
Alors, tout à fait. Moi, je me considère musicien, clairement. Je joue avec des contrôleurs et des machines, donc des synthétiseurs analogiques, numériques et un peu de modulaire à la marge. Mon travail, il va... Là où ça va rejoindre beaucoup plus le travail de DJ, c'est qu'il va falloir assembler, transitionner et faire vibrer un peu le public et les faire bouger. Donc la finalité est assez rapprochée, si ce n'est que moi j'ai une construction qui va plutôt être basée sur le live, où je vais forcément avoir des instruments de musique avec moi, donc une petite armada de synthétiseurs, un contrôleur et puis une boîte à rythme. Et on va un peu s'amuser avec tout ça. Et à la fin, on a un set d'une heure environ, une heure et demie quand on est vraiment motivé. Et la principale différence, je dirais, avec le DJing, c'est que je compose. C'est-à-dire que c'est mes morceaux que je joue, je compose mes musiques. Alors je sais très bien qu'il y a plein de compositeurs qui composent leur musique et qui les jouent en live DJ aussi. Mais là, c'est en live vraiment dans le sens où... il y a des claviers, il y a des notes, tout ça, faut faire ça, tout ça en live. Voilà.
Alors pour bien différencier la chose, tu composes en amont et tu réinterprètes en live tes compositions. C'est pas une improvisation que tu fais en live.
Non, alors ça peut. Du coup, il y a aussi une plus grande part à l'improvisation qui est possible parce que les instruments qu'on servit en studio, ce sont les mêmes qui servent en live. Donc c'est tout à fait possible. Moi, je reconnais clairement que je suis plutôt scolaire, c'est-à-dire que je compose à la maison, je rentre tout ça dans mes séquenceurs et je vais pouvoir organiser mes séquences dans tout mon contrôleur séquenceur et puis après, je joue avec. et je vais pouvoir enchaîner mes morceaux composés. C'est comme ça que je procède. En revanche, si on a envie de s'amuser, d'étirer un morceau, je peux le faire entièrement, vu que je n'ai aucune limite, étant donné que le matériel est strictement le même en studio qu'en live, quoi.
Et comment tu composes? Comment t'abordes tes morceaux? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est l'énergie de la foule que tu vises? Ou est-ce que c'est les machines? Tu veux les utiliser d'une certaine manière? Comment tu penses à ça?
Il y a plein d'approches. Alors effectivement, il y a déjà des machines qui vont peut-être avoir des spécificités qu'on a envie de mettre en avant. C'est-à-dire qu'on va vouloir peut-être plus exploiter certaines sonorités que peut développer un synthétiseur, et on va plutôt le mettre en avant. Puis après, on va le mélanger avec d'autres synthétiseurs pour avoir des harmonies et puis du contraste. Donc le travail, il est plutôt classique finalement, c'est-à-dire qu'on va avoir une idée de mélodie ou une tourne ou un truc qui nous plaît, qui groove entre guillemets. Et après, on va venir broder autour, on va venir construire, on laisse reposer un peu, on revient dessus et puis on voit ce qui peut être retiré, ce qui peut être allégé, ce qui pourrait être ajouté. Et à la fin, on finit avec un morceau assez classique. La différence, par exemple, on parlait de techno et de hard techno. Moi, je sais que je suis quand même assez structuré dans mes morceaux, dans le sens où ça reste assez classique. On n'est pas loin du couplet refrain ABA ou ABC, qui sont quand même très utilisés dans la musique, on va dire classique, que ça va de pop, rock, tous les styles musicaux. Donc je suis pas, par contre, je suis pas encore sur des sets très progressifs où là on pourrait avoir du live machine. Il y a plein d'artistes qui font ça, qui sont absolument géniaux, où on va venir commencer par une boucle et en fait on est parti pour une heure et demie de progressif hyper immersif, intelligent, tout ça. Moi je fonctionne quand même plutôt avec des morceaux qui sont composés et je les reproduis en live. Voilà.
Et c'est quoi tes influences? Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont influencé pour faire ça?
Il y en a une quantité phénoménale, ouais. Et par tout style de musique confondu, hein. Alors moi j'ai une formation de musique classique qui m'a permis d'avoir un apport théorique assez conséquent, ce qui est plutôt facilitant pour la suite. Le solfège, ça peut être un peu rébarbatif, mais c'est hyper pratique quand on en a.
Ouais, t'avais des bases,
mangé, ouais, 10 ans.
Forcément qui aide.
Je jouais de la clarinette et là le fait d'avoir repris avec des synthétiseurs, ce qui est assez chouette pour moi, c'est que je peux jouer à l'homme orchestre et je peux décider de tout et je suis tout seul, donc je suis un peu le seul maître à bord sur mon cockpit, quoi, ou dans mon bateau. Et tout ça, en fait, c'était quoi ta question initiale? Je me suis perdu.
Des influences.
Les influences, voilà. Et les influences, elles sont là. Alors moi, j'ai écouté beaucoup de musique classique, mais aussi beaucoup de rock. Et après, en termes de musique électronique, à la volée, alors je vais te donner des noms, mais ça peut être... C'est peut-être parce que c'est les derniers que j'ai en tête, il y a comme Vitalik qui m'a énormément influencé. Ah ouais. Il peut y avoir Irène Dresel, il peut y avoir mais des groupes aussi très rock, je pense à Supertramp par exemple. Ça peut paraître un peu éloigné, mais finalement ça peut se rapprocher énormément à plein d'autres endroits, dans le rap aussi, dans la musique plutôt folk. Donc j'écoute vraiment beaucoup de choses et là en ce moment j'écoute un peu plus de la techno, je m'oriente de plus en plus sur l'aspect épuré du kick qui remplirait quand même une grande partie, et puis après on va venir plutôt parsemer de grooves, de basses. Voilà. Moi c'est quand même plutôt presque pas de la basse musique, mais il y a quand même la basse prend une part importante, que c'est un synthétiseur analogique, il est modulaire, il est très gras, il est très, voilà, c'est un peu une copie du Moog, tout ça. Et les influences, Irène Dresel, Vitalik, Jean-Michel Jarre, bien évidemment, d'un point de vue exploration synthétiseur, même Robotini aussi, j'en oublie certainement des palettes entières. Mais
ceux qui ont vraiment aussi expérimenté la techno plus loin que simplement un style pour faire danser.
Ouais, bien sûr, puis il y a Jeff Miles, il y a Moroder, il y en a des palettes entières, et ce qui est plutôt chouette aussi, c'est de pouvoir... La musique électronique, on peut la retrouver vite assez partout, saupoudrée, on va dire, avec l'aspect... boîte à rythme, numérique, ordinateur. Donc moi j'arrive à trouver des idées dans à peu près n'importe quel style de musique.
D'accord. On va parler un petit peu aussi des scènes, parce que tu en as fait quand même plusieurs. Est-ce qu'il y en a une qui t'est restée un petit peu en tête? Moi je sais que je t'avais vu à l'Orléans Bière Festival 2024, c'était super cool, c'est comme ça que j'ai pu te découvrir. Mais est-ce que toi t'as une scène qui t'a marqué ces dernières années où tu as pu te produire?
Ouais, j'en ai. Alors, elles sont déjà toutes. À chaque fois qu'on fait une scène ou un live, à chaque fois c'est quand même très chouette parce qu'il y a le petit stress avant qui permet de se concentrer, il y a le frisson, puis après on a souvent des retours plutôt voilà, positifs ou concernés, donc c'est plutôt chouette. L'Orléans Beer Festival, c'était vraiment une chouette expérience parce que c'était, je pense, la première fois que je jouais sur un, on va dire, un système son un peu conséquent. Et puis après, la date qui m'a bien marqué quand même, c'est quand on m'a proposé de jouer, on m'a programmé à l'Astrolabe Orléans dans le club en première partie de contrefaçon. Et là, c'était vraiment, je m'étais mis la pression, sans jeu de mots. J'ai délivré, je pense, un set qui était vraiment, vraiment propre et tout. Et j'ai eu un retour du public très direct et très frontal, parce que finalement, on est juste devant eux. Et voilà, je me souviens d'un moment assez précis où je coupe mon set en deux, en fait, et je prends la parole, parce qu'on me reprochait souvent de ne pas dire bonjour au début. Donc je arrête mon morceau, okay. Et je dis bonjour. Et là, en fait, il y a tout le public qui me salue en gueulant un bon coup, quoi. Et franchement, là, ouais, là, j'ai eu un truc en mode... Ok, là c'est puissant. Et du coup, évidemment, ça porte énormément. Et on se sent vraiment pousser des ailes. Et là, paf, la deuxième demi-heure, on a tartiné. Enfin, j'ai tartiné avec beaucoup de plaisir, quoi, pour aller jusqu'au bout du set. Voilà, c'est ça, c'était une très très belle expérience.
Est-ce que tu as déjà eu des petits coups de flip, par exemple, avant de monter sur scène? Tu as une de tes machines qui ne fonctionne pas, ou un branchement qui ne fonctionne pas, ou un câble qui lâche? Parce que ça, chez les DJ, ça arrive. Ça nous arrive de nous faire peur parfois. Alors, toi qui as beaucoup plus de machines à assembler. J'imagine que tu dois avoir un peu ce stress-là.
Ouais, il y en a. Surtout que les câbles, c'est une durée de vie moins longue que ce que je croyais. oui, ça m'arrive régulièrement. J'ai quand même assez rapidement, je suis plutôt bien entouré de musiciens qui ont plus d'expérience que moi. Et ils m'ont dit un mot qui s'appelle le spare. Et donc, ils m'ont dit « tu doubles tout ». T'as pas le choix, en fait, faut tout doubler. Donc ça peut paraître un peu contraignant au début d'avoir une valise bis, mais très vite j'ai compris.
Ouais,
donc,
ça sauve la vie.
On double les câbles, on double les contrôleurs MIDI, on double les câbles MIDI, on double tout, pas les instruments bien évidemment. Donc oui, j'ai eu des coups de stress ou même des étourderies qui viennent purement de moi, c'est-à-dire que j'oublie de remettre le volume d'un synthé ou j'oublie de démuter ou de muter un truc et il y a quelque chose qui part sans que ça devrait. Ou sinon, je dois lancer un truc et puis en fait il y a rien qui part et on repart pour une boucle où il faut trouver pourquoi. D'où ça vient. Alors la majorité du temps c'est ou du contrôleur ou du synthétiseur et ça fait des petites sueurs froides. Après, tant qu'on perd pas l'énergie, la dynamique, normalement le public il passe relativement à côté.
Oui, quoi. Il se rend pas compte.
Ouais. Mais oui, ça, c'est similaire. Je pense que les DJ quand il y a le synth qui plante ou voilà, ouais, je vois bien le truc.
T'as déjà eu des platines qui lâchent, Michaud?
Oui. Ouais. Samedi.
Ah samedi, bah oui, samedi dernier. Exactement. Ouais, ça surprend.
Ouais, ça fait bizarre.
Moi, j'avais vu ça sur une platine aussi en plein mariage. Et par chance, j'avais du backup. Le câble d'alimentation avait lâché, le truc qui arrive jamais.
Et c'est rare.
J'avais un câble d'alimentation en backup que j'ai rebranché en toute vitesse. Personne ne s'est rendu compte de rien. Mais sueur froide, oui.
Ouais, c'est hyper. J'ai vu là un réel un peu. C'est un artiste techno, j'ai plus son nom, c'est un peu honteux de pas retenir son nom. C'est un mec hyper connu qui prend carrément un tournevis, qui démonte son modulaire en plein live et qui le remonte en y allant un peu comme un cochon, quoi. À mon avis, la panne, il l'avait déjà vécu. Zéro stress, hein. Mmh. Il y va.
Ça, c'est fort.
Bah ouais. C'est faut la musique. La musique électronique, on a un truc. Je trouve qu'on a un petit atout, c'est que c'est quelque chose qui se vit. Et tant qu'on n'a pas vraiment tout qui lâche, d'ailleurs, je pense qu'en DJing, ça doit être quand même beaucoup plus pressurisant. Parce que moi, à la limite, si j'ai un synthé qui lâche ou quoi, à la limite, je peux finir mon live avec un synthé en moins. Si on est bon, qu'on sait rebondir et qu'on maîtrise les morceaux, enfin, moi, je m'en sortirai. Voilà. Alors, il y aura un petit goût de trop peu à mon goût, mais ça ira. Je pense qu'en DJ, quand on a vraiment soit une des deux platines, un des decks qui lâche ou des
ou la table de mixage.
Ouais, carrément.
La table
voilà,
de mixage, c'est mort.
Hein. Ouais, c'est mort.
Là, là, pour le coup, difficile de masquer. À un moment donné, il faut dire, OK, hop, il y a. La coupure musicale, c'est la seule angoisse qui peut arriver. C'est, moi, ça m'est déjà arrivé d'appuyer sur le bouton stop sans vouloir. Ouais,
ouais, ça arrive aussi de taper
le point cue.
Ouais, exactement. Non, mais c'est bien d'avoir un peu des similitudes comme ça et tout, parce que bah, c'est le live, hein. c'est le problème. Des fois, les machines, elles lâchent et il faut être préparé à ça.
Ouais, et puis il faut s'en servir. C'est-à-dire que normalement, le public, il est venu pour passer un bon moment. On va le partager avec eux. Et c'est généralement des choses qu'ils peuvent tout à fait comprendre. Et faut, alors sur le moment, on peut avoir une petite goutte de sueur qui arrive sur le front, mais c'est tout à fait possible d'en jouer avec eux tant que le problème se résout dans les 2-3 minutes qui viennent. Quoi.
Et aujourd'hui, tu as combien de machines pour tes lives?
J'ai récemment un tout petit peu réduit, mais j'ai un contrôleur qui contrôle 4 synthétiseurs. Et une boîte à rythme à côté. Donc finalement, on est à 5 machines qui émettent des sons et une qui les contrôle, ce qui est finalement pas tant que ça. Pendant un moment, je suis monté à 8-9. J'ai tendance à, là je suis dans une, enfin dans ma phase de réduire les choses avec le less is more, c'est-à-dire on va essayer de avoir un peu moins d'instruments et d'aller chercher un petit peu plus loin dans les retranchements de l'instrument pour voir qu'est-ce qu'on peut proposer comme sonorité sans perdre le spectateur, toujours en gardant une dynamique et quelque chose qui permet d'avoir un bon rythme et puis et de pas s'ennuyer, pour faire simple. Donc là j'ai un contrôleur qui permet donc soit en contrôle voltage, on appelle ça, donc quand on voit des petits signaux électriques à d'autres synthétiseurs pour jouer soit des notes, soit des modulations. J'ai un synthétiseur analogique, j'ai un autre qui est semi-analogique, semi-numérique, et j'en ai un qui est complètement numérique, qui permet d'avoir des sons plus froids, mais un peu plus stables pour faire des notes. Et puis j'ai un semi-modulaire, on va dire, qui lui voilà, a la particularité de proposer des sons, on va dire, vintage, années 70, 80, qui a moins de possibilités, qui se désaccorde avec la température, mais du coup c'est génial. Et par contre en live, on a une chaleur et une dynamique de ces synthétiseurs, parce que forcément les ondes qui passent sont beaucoup plus chaudes et versatiles, qu'on arrive à avoir des sonorités quand même assez chouettes en live qui sonnent bien, quoi. Et il y a le live comme là, on va pouvoir faire tout à l'heure, puis il y a aussi vraiment le live en concert, où là, effectivement, j'en reviens toujours un peu à la même chose, mais le kick, la basse détachée avec les caissons, il y a un peu quand même tout un travail à faire où on peut vraiment rendre les choses très vivantes avec très peu, finalement.
Alors pour ce soir, qu'est-ce que tu as prévu de beau ?
J'ai prévu un set d'environ d'une petite heure, on verra jusqu'où ça nous mène. On va commencer tranquillement, mélodique, vers 130 BPM, puis on finira vers 145, je pense, sur la fin. De la mélodie, du kick, des basses.
Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur les réseaux sociaux ?
Oui, tout à fait.
Ton petit nom, ton petit Insta, c'est quoi ?
Ouais, Orange Pression. Donc, musique électronique, en live, d'OLS, pas d'ordinateur, que des synthétiseurs. TikTok, Instagram, Meta, plus largement. Et j'en profite aussi pour dire que ma prochaine date à Orléans, ça va être le samedi 4 avril à l'Astrolab pour le LT Techno Events. Et ça va être très, très, très chouette. Voilà.
Trop cool, en tout cas, de pouvoir voir justement autre chose que des DJ pour la musique électronique sur des endroits à Orléans. Donc franchement, bravo. Ouais, trop cool.
Merci beaucoup.
Hâte de découvrir ton set tout à l'heure. Et puis, je crois que je n'avais pas d'autres questions. De toute façon, vous allez pouvoir retrouver les photos et les vidéos sur notamment Instagram, celui du Saint-Disque, par exemple. Et puis, voilà. T'es prêt ?
Je suis prêt.
Eh ben super, je te laisse t'installer derrière moi.
Ouais, très bien, ça roule, à tout de suite.
Michaud, merci beaucoup pour ta venue. On note, les gens ont noté. Maintenant, de toute façon, le rendez-vous, il est facile. C'est tous les samedis, toutes les semaines, Astra, la petite salle du Nova Club. Est-ce que tu peux rappeler la capacité ? Parce que ça, c'est intéressant aussi. Parce que quand on pense petite salle, on se dit, ouais, 150, 200 personnes. Ah, mais oui, en fait, non. C'est pas ça, non ?
400 personnes.
400 personnes, voilà, c'est une belle petite salle.
Ouais, une belle petite salle.
C'est bien. Presque un astrolabe.
Ah oui, oui, quasiment. Ouais. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Non, 400 personnes, on est bien.
Eh bah, super, on souhaite le meilleur à Astra.
Merci beaucoup, tu feras partie de l'aventure.
Ah,
tu sais.
Trop, trop cool d'en faire partie, en tout cas. Et puis, si j'ai une dernière date à annoncer, c'est ce samedi, le samedi 31, nous, le Saint-Disque, on fait une petite soirée hip-hop à l'Astrolab, dans la petite salle. Voilà, et même on peut dire que depuis aujourd'hui, c'est officiel, c'est déjà sold out. Donc vous serez 200 samedi dans la petite salle pour écouter du bon hip-hop à l'ancienne, avec notamment Professeur Jones, Drunken Master, et on a aussi DJ Stone, je crois, plus quelques surprises qui vont... arrivé. Voilà, c'est Orange Pression qui va démarrer le petit live qui va suivre. Et puis sinon, je vous dis à bientôt et bonne soirée à tous.